C'est les démons ? Aïe, 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 qu'est-ce que ça monte pour moi cette musique à chaque fois. Pourtant, c'est la rentrée, je devrais être un peu plus calme que d'ordinaire, mais non, quand c'est cette musique, je me dis que je suis avec Jean Avezou, avec Chris, et puis qu'il va y avoir des invités, et puis que ça va être super, qu'on va passer une heure incroyable. Eh bien, nous avons une invitée, elle s'appelle Marie Despezailles, et qui est-ce ?
On se dit pas bonjour.
Bah, si tu veux lui dire
bon,
bonjour.
Allez, allez, on va gagner.
Moi, je veux bien. C'est pas vous, mais moi, je veux bien dire bonjour.
Marie Despezailles, bonjour.
Bonjour.
Jean, vous avez fait un petit portrait de Marie Despezailles. Dites-nous que vous en savez, ce que vous voulez que nous sachions.
Clips.
Et qu'elle ne saurait peut-être pas d'elle-même.
Ça m'étonnerait qu'elle sache tout. Marie. Ah, Marie. Si vous la voyez. Se maintient modeste. On l'imagine en...
Elle baisse les yeux, c'est trop joli.
En Vierge Marie, tiens justement, agenouillée, humblement penchée sur un berceau. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais manque de chance, c'est justement sa confession qui nous intéresse. Mais quelque chose m'intrigue. Sur ces photos, elle est à chaque fois différente. Sauf cette malice dans l'œil, dans les deux même. Cet air d'être toujours prête à vous raconter une histoire. C'est son métier, bon d'accord, mais je me suis renseigné, il ne faudrait pas croire que j'invente tout. Hein. Elle est comédienne, oui, elle joue, elle lit en jouant et inversement. Mais on sent qu'elle sait non seulement raconter des histoires, mais en inventer même. Qu'elle serait de ce genre de conteuse qui accompagne, vous voyez, le sultan jusqu'au bout de la nuit et qui s'enfuit au petit matin. Vous voyez le genre. Je ne sais pas de quel barbu misogyne elle craint la vengeance, elle nous le dira peut-être, mais je croirais plutôt que c'est surtout pour le plaisir de lui avoir fait perdre la tête. Oui, j'en suis convaincu. Marie est une Scheherazade d'aujourd'hui, envoûtante et rieuse. Imaginez. Vous êtes sur le point de vous endormir, l'esprit encore encombré des tracas de la journée, avec ce vizir qui intrigue sournoisement pour prendre votre place, ce harem qui ne cesse de se chamailler, chacune disputant aux autres la priorité pour prendre place dans votre lit. J'ai bien dit, vous imaginez. Hein. Sans parler des difficultés pour garer sa bagnole. Et elle est là, sagement assise sur le coin de votre lit, la tête humblement baissée, mais avec l'œil déjà pétillant, vous n'y tenez plus, elle est trop. Oh Marie, raconte-moi une histoire.
Eh bien Marie, est-ce que vous voulez réagir à ce portrait brossé par Jean Avezou?
Eh bien,
avec tant de dévotion.
C'est vrai que j'aime les histoires, j'adore ça. C'est vrai qu'en raconter, en entendre, être public, comédienne, lectrice, tout ça, j'adore. Il y a un film qui m'avait beaucoup marqué, je crois qu'il était de Deauville, en tout cas avec Miu Miu, qui s'appelait La Lectrice. Et qui est effectivement une autre sorte de Scheherazade dans un autre temps, mais qui racontait un peu la même histoire et cette force des histoires racontées, effectivement. Mmh. Voilà, et c'est vrai que... Peut-être même que j'ai commencé à faire ce métier parce que bah, c'est ça, quoi. J'adorais les histoires. Donc, pas mal, Jean, pas mal.
Dit-elle en clignant des yeux.
Quant à la Vierge Marie...
C'est en intermittence.
Voilà, c'est ça.
C'est un héritage intermittent.
Voilà, d'accord. Intermittent.
Et si vous deviez vous présenter, vous, en 30 secondes, aujourd'hui, en cette fin de septembre 2018, qui êtes-vous, Marie Despezailles?
Ah, la question qui tue. Petite bonne femme qui essaye le plus possible... d'être dans la vie, d'être bien dans ses baskets et de suivre le plus possible et le plus fidèlement possible ses choix et ce qu'elle sent à l'intérieur d'elle.
Waouh. J'espère qu'il y en a plein d'autres.
Quelques points de suspension.
Voilà.
Il me tarde de la rencontrer.
C'était la seconde
cette
philosophique.
Cette petite bonne femme.
voilà, merci. Bonsoir. Je vais aller méditer.
Eh bien, au revoir, Marie. Merci. Bonsoir. Merci encore. Peut-être que vous pourriez nous écouter maintenant. Et puis, nous n'avons plus de questions à vous poser. Je vous laisse dans votre silence, oui, votre recueillement, Marie. Merci. Eh bien non, nous avons une petite série de questions qui grouillent d'impatience, qui trépignent comme moi. Marie, est-ce que vous pourriez me décrire le décor de votre enfance ? Mettez-y des bruits, des odeurs, des images.
Une petite ville, pas un village, une petite ville fort charmante, entouré de quelques montagnes et surtout de l'océan. Donc,
l'océan,
la tête dans les montagnes et les...
La baie de Somme, c'est pas bon.
Les pieds dans l'océan. Oui. Bon, l'océan, les montagnes, l'océan.
Ben, on en a qu'un.
Un pays magnifique.
Les Pyrénées.
Oui,
le pays basque.
Oui, mais oui, l'Éden. Le Pays basque, Ouskadi, bienvenue en Ouskadi.
Et est-ce que vous parlez basque, Marie ?
Bye bye, j'ai oublié. Ça fait 35 ans que je suis quand même partie, donc, mais je savais quelques mots, effectivement, au départ.
On ne parlait pas basque à l'école.
On ne parlait pas basque, ça ne faisait pas bien à l'époque. Voilà, c'était même très très mal vu, ça faisait vraiment, le cutéreux, la gueuse. Et même si on voulait, ça n'existait pas. Les écoles basques s'appellent maintenant les Eskualduna, hein, je vous le fais en direct. Mais à l'époque, effectivement, non, absolument pas. C'était très, très, très mal vu.
Et à la maison non plus. Il y avait une grand-mère ou un grand-père qui le parlait ?
Alors, ma grand-mère le parlait un peu, mais c'était mon père qui, a priori, avait mis son veto et on ne parlait pas le patois, on ne parlait pas basque à la maison.
Alors, on parle au passé, mais ça, c'était dans les années...
Les années 70, année 70, ouais. Voilà.
Alors, attendez, je suppose, prends ma calculette, fais le 1, soustraction, bon, ça va.
Bon.
Oui, Jean. C'est pas des choses à dire, à préciser.
Et le goût du théâtre, c'est arrivé quand ?
Ouais.
Toute petite déjà ?
Alors, le premier souvenir, c'est pas vraiment, vraiment théâtre. C'est 6-7 ans, une petite aventure d'un ballet de danse, Coppelia. Mais dans le ballet de danse de Coppelia, il y a une très belle histoire. Et il y a une dramaturgie. Donc déjà, j'avais été vraiment très touchée par cette histoire de femmes, mannequins, marionnettes qui s'animaient. Et ensuite, c'est une très belle représentation d'une pièce de théâtre en marionnette qui s'appelait Le Cri, qui était tragique, mais qui était vraiment extraordinaire.
Et vous vous en souvenez encore, même de son titre.
Oh oui, Le Cri, c'était waouh. Voilà, j'étais complètement emportée. Et puis c'était de manière un peu, anodine, club théâtre au collège. Et ensuite, ça a été vraiment, et ça je me rappelle, des odeurs, presque des gens qui étaient là, de l'atmosphère. J'étais vraiment une enfant, adolescente, je suis encore quelqu'un quand même de très timide.
Vous êtes encore adolescente ?
Oui, non, de timide, timide, bon, l'adolescent sûrement, encore quelque part, le petit pointillé. Mais, et donc je suis rentrée au club théâtre comme ça, et je dis ça y est, je suis chez moi, je me suis sentie mais vraiment très très bien. Voilà, même avant de commencer quoi que ce soit, avant de jouer, ou c'était vraiment le fait de rentrer dans ce théâtre et de dire « Mon Dieu, que je me sens bien ». Voilà.
Voilà. Mmh. Et votre premier vrai rôle au théâtre ? Dans votre vie personnelle, ça c'est une autre histoire. Hein, ça...
Eh bien, curieusement ou pas, j'ai vraiment pris mon pied à travailler un texte de Guy Foissy qui s'appelait L'enfant mort sur le trottoir, qu'on a tourné pas mal. Et je jouais vraiment un rôle de composition, puisque je devais avoir une vingtaine d'années. Et je jouais une vieille dame, déjà. Et vraiment, c'était magnifique de m'immiscer comme ça, puis dans cet univers de Guy Foissy que j'aime beaucoup, qui est très absurde, très ironique, très cynique. Et ce personnage de vieille femme, et ben j'y suis rentrée directement, très simplement.
Vous aimez vous déguiser ?
Oui. J'aime me déguiser, j'aime ne pas me reconnaître, j'aime m'oublier, j'aime connaître d'autres territoires que le mien.
Est-ce qu'il a fallu persuader vos proches pour devenir la comédienne que vous êtes aujourd'hui ? Est-ce que ça a été,
ouais, ça a été
un compliqué chemin a été vite tracé ?
Non, pas du tout. Non, ça a été compliqué. Je vais aller un peu dans le stéréotype. Ça a été à 18 ans, après mon bac, la cassure familiale. Voilà. Je suis partie presque toute seule avec mon petit sac à dos et une petite valise.
Et déterminée pour
oui,
faire du théâtre.
Absolument. Ouais, je suis partie à Paris, puisqu'on ne pouvait faire du théâtre qu'à Paris. Voilà.
Ça l'est moins, c'est moins obligatoire aujourd'hui.
Oh oui, bien sûr. Oui, les choses ont quand même changé. Ça s'est un peu décentralisé, tout ça, bien sûr. Mais bon, c'était pour le théâtre et puis aussi des raisons familiales qui me faisaient partir très, très loin, le plus loin possible pour moi, en tout cas, à ce moment-là.
Et le plus loin, c'était Paris.
Et le plus loin, c'était Paris. C'était la ville des Lumières.
Partir,
c'était relativement facile. S'y installer, ça a été plus compliqué, parce que, évidemment... je n'avais pas trop d'argent. J'arrivais d'une toute petite ville, j'avais peu de connaissances. J'étais très angoissée dans le métro. Je sais que je me disais, mon Dieu, mais tous ces gens, mais c'est bizarre, je les croise dans le métro, dans la rue, et je ne vais pas les retrouver une nouvelle fois. Peut-être que c'est des gens que je ne reverrai jamais.
Vous auriez voulu les revoir.
Mais oui, bien sûr, et fonder une grande famille. Non, mais ça, c'est l'arrivée dans les grandes villes, c'est incroyable. Voilà. Et puis, tout l'apprentissage d'être une simili vraie parisienne.
Tout en étant une simili vraie comédienne ?
Oui, alors... Bah,
par où êtes-vous passée pour
alors,
cela ?
Je me suis quand même inscrite de manière un peu raisonnable à la fac, donc à Nanterre. Je me suis inscrite en histoire de l'art et art du spectacle, où de temps en temps, j'allais me réchauffer dans les salles de cours. Et puis, en même temps, j'étais obligée un petit peu de travailler. Donc, j'ai fait des petits boulots alimentaires. Voilà. Et puis, au bout d'un an et demi, deux ans, j'étais relativement fixe, avec, en colocation, etc. Donc, j'ai pu commencer à aller voir un petit peu des cours de théâtre et puis à essayer de passer des concours et puis à me libérer comme ça de la fac et des exigences un peu pécuniaires.
Et ils vous ont servi ces cours d'histoire de l'art et de...
Oui, absolument.
Et
oui,
de
oui,
théâtre
j'ai rencontré, j'ai croisé, oui, absolument. J'ai croisé des gens... déjà, histoire de l'art, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Ça m'a ouvert, évidemment, l'esprit et mes repères culturels. Alors, je ne sais pas pourquoi, juste parler d'histoire de l'art, parce que ma fille, justement, est en train d'étudier, non pas l'histoire de l'art, mais Byzance. Et l'art byzantin, Justinien et Théodora, ça m'a complètement smouffé. Je ne sais pas. Ça m'a complètement épatée. L'art africain, absolument incroyable. Et puis, art du spectacle, oui, j'ai rencontré Gildas Bourdet, j'ai rencontré des gens...
metteurs en scène.
Voilà, metteurs en scène, auteurs. Voilà, ça m'a évidemment enrichi beaucoup.
Et vous avez choisi les cours Florent.
Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire dans ces années-là, quand on était une jeune provinciale qui débarquait ? Eh bien, c'était peut-être aller, oui, effectivement, traîner du côté de l'île Saint-Louis, là où étaient à l'époque les cours Florent. Et donc, quelquefois, avec cette inconscience de la jeunesse, je suis allée frapper aux portes, je suis allée au cours Florent en disant, j'ai pas beaucoup de sous, je ne peux pas m'inscrire comme ça. Donc, est-ce que vous avez peut-être un concours, quelque chose que je peux passer ? Bien oui, vous avez la classe libre, etc., mademoiselle, bon, tout ça. Donc,
il y a eu le concours ?
Oui.
Ah, il faut nous raconter ça, vous vous souvenez du concours et...
ouais, ça fait longtemps, hein. Mais oui, alors dans mon souvenir, il y avait un parcours libre où j'avais tenté une improvisation clownesque, un petit peu chantée déjà.
Ah, déjà du clown et du chant.
Et puis je me suis dit, allez, soyons fous, j'avais préparé une scène, parce que j'adorais les tragédies. Donc,
en riant,
j'adorais ça. Et donc, j'avais préparé une scène, je crois que c'était Racine, une scène de Racine, comme ça. Donc, je me disais, pourquoi pas passer de l'un à l'autre ? Ils vont se rendre compte de l'éventail de mes possibilités. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense que cette année-là, les gens étaient très, très mauvais. Je ne sais pas, donc effectivement, oui, je l'ai eu un peu comme ça, rapidement.
Un rôle féminin, parce que vous avez joué, parce que vous venez de dire... Soyons fous et non pas soyons folles. Alors,
Oui, fou folle, oui.
Oui, oui,
folle,
non,
fou,
mais
fou folle.
Vous avez déjà vous avez déjà joué des rôles de garçon, peut-être?
Est-ce que j'ai déjà joué des rôles de garçon?
Ça va, à notre époque, hein, les choses bougent.
Oui. Est-ce que j'ai joué des rôles de garçon?
Ça vous entrait?
Ah oui, bien sûr. Mm-hmm. Non, je ne crois pas. Mm-hmm. Non, pourtant, grande admiratrice de David Bowie, j'aurais pu, mais non.
Vous savez sauter à la corde?
Quel rapport, Jean?
Aucun.
Je me disais un fantasme de Jean, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe?
Peut-être, c'est pas exclu.
Entre deux sauts.
Bon.
Dans la tête de Jean, une comédienne doit savoir tout faire et l'impossible,
voilà,
c'est ça?
Voilà, c'est ça, oui, oui. Voilà.
Donc vous ne savez pas sauter à la corde, Jean, c'est cela?
Non, non, mais on aura un entretien particulier. Je lui dirai tout. Qu'est-ce que vous avez fait au Royard Théâtre?
Alors, Royard Théâtre.
Mais qu'est-ce que c'est?
C'est quand même.
Vous voulez pas que je, je vous raconte la suite du cours Florent parce que je ne suis pas restée très longtemps.
Si.
Oui,
oui. Il y a une suite et une fin.
Voilà, une suite et une fin assez rapide. Alors, donc ce fameux concours et puis bon, le cours Florent, je pense que ça l'est toujours, mais ça reste comme ça une espèce de chose maintenant un grand appareil, mais où il y a des agences de casting, des agents, on croise Francis Huster, Jacques Weber, etc. Monsieur François Florent, les jeunes gens étaient très beaux, les jeunes filles étaient magnifiques. Puis moi, je me sentais comme une espèce de petite souris rachitique, avec un petit peu encore mon accent basque qui traînait de ci, de là. Donc plus ça allait, plus je me sentais vraiment pas bien et pas là où je devais être, si je puis dire. Et puis j'ai eu un cours où on m'a demandé de faire le cri de la chouette. Alors bon, j'étais sur scène, tout ça, et le professeur, je ne sais pas si c'était Florent ou quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus, qui me dit « Voilà, je vais vous expliquer quelque chose de fondamental pour le théâtre, c'est le cri de la chouette. » Oui, mais qu'est-ce que c'est le cri de la chouette? Et donc, c'était prendre une inspiration profonde, avoir un air inspiré et regarder par-delà du public, là, très loin, vers le quatrième mur, pendant quelques secondes. Et ça, c'était bien joué au théâtre. Alors, où il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Et là, je me suis dit non, là, je ne peux pas. C'est pas possible, c'est pas pour moi. Et j'ai dételé comme un lapin et je ne suis plus jamais revenue au cours Florent.
Et vous n'avez jamais poussé de cri de chouette pour vous venger?
Oh. Ça, c'est bien, ça, pour une thérapie. Mais oui, merci Christine. Vous voulez que j'essaye, là?
Ululer.
Oui.
Par-dessus le quatrième mur de la radio, le mur du son. Alors, allez-y.
Ça fait...
Ouh, 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 ouh.
François, je suis là. Francis, oui, ça y est, je la sens, la chouette qui est en moi. Merci, Jean.
Ça, oh, ça va être censuré,
merci, Christine.
Ça.
Christine.
Oui.
Royard. Royard, génial. Royard, c'était, bon, quelques années après, c'était un Américain, je ne me rappelle plus son nom, mais c'était le fun total. C'était pas du tout faire n'importe quoi, mais des choses justement pas académiques.
Ah si, voilà, on y vient.
Voilà.
Saltimbanque, va. Faites n'importe quoi et en plus, on vous paye pour
voilà,
ça.
Voilà, c'est vrai, c'est dégueulasse. Et donc, c'était vraiment, ben voilà, les choses pas académiques, des trouvailles se roulaient par terre. Bon, c'est pas le cri primal, c'était pas l'idée, mais...
Non, on a déjà eu celui de la chouette. Épargnez-nous, Marie, s'il vous plaît.
Oui, ça a commencé par le cri.
Oui, oui.
Mais tout ça
oui.
a un lien, mais bien oui,
sûr.
Bien sûr.
Mais oui, il fallait...
Faites une thérapie en chez vous. Hein,
il fallait faire cette émission.
Voilà, voilà. Et donc, voilà, Royard, plein d'exercices pas du tout conventionnels, très rigolos, mais en même temps très profonds, très étudiés, pour essayer de, d'améliorer sa voix, d'être mieux en public. Mais tout ça avec un esprit de légèreté, d'innovation et de franche rigolade. Ah non, super, Royard. Super souvenir. Johannes Théron. Il me rappelle. Johannes. Ouais.
Voilà. C'était un chanteur.
C'était sûrement un chanteur.
Ouais, ouais. Il chantait un opéra, lui tout seul.
Et ce qui était très intéressant, notamment, bon, qu'on retrouve bien sûr maintenant beaucoup plus souvent, c'était qu'au Royard, il y avait des professeurs de chant, des chanteurs, des comédiens, des danseurs, des plasticiens. Voilà, tout ça était très, très, très ouvert et il y avait déjà le mot très, très à la mode de transversalité, bien sûr. Tout ça
trans, vous voyez, on y revient.
Trans.
Mais pourtant, sur votre CV, quand on le regarde de près, comme pour un moment d'embauche avant cette émission, j'ai vu que vous aviez aussi un diplôme d'animatrice ou en tous les cas qui vous a mené vers une carrière sociale. Pour quand? Pourquoi? Quand?
Mais quelle est cette fille? Je ne comprends rien.
Non, il y a certainement un lien. Alors, on va le découvrir.
Bon, disons que je suis restée une quinzaine d'années à Paris. Donc, je vous passe les détails. On a fondé une compagnie. On a essayé de ne pas trop mal jouer de ci, de là, donner des cours, etc. Puis au bout d'un moment, il y a eu une espèce de saturation de vie parisienne, d'être ensemble avec ces gens-là et de travailler toujours un peu avec le même groupe. Et puis une envie de nature. Et oui, peut-être de se poser un peu plus longtemps quelque part, parce qu'à Paris, c'est un endroit magnifique avec des souvenirs incroyables, mais j'ai réalisé qu'en 15 ans, j'ai dû déménager au moins 10 à 12 fois, à peu près tous les 2 ans, je déménageais. Voilà. Et puis, bon, on n'arrêtait pas de courir à droite, à gauche, etc. etc. Et donc, je me dis, oh, c'est bien de ralentir un petit peu. Donc, j'arrête tout. J'arrête le théâtre, je ne vois plus mes amis, je change de ville. Voilà, radical.
C'est ce qu'on appelle une rupture.
Une rupture, voilà. Une rupture. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis retirée, je me suis parlé de moi à moi en me disant, bon, à part le théâtre, qu'est-ce qui t'intéresse? Les gens. Bon, les gens. Peut-être on va aller voir dans le social. Oh oui, c'est bien ça, le social. Puis en même temps, il y a l'animation. Alors, animation sociale, ça a quand même quelque chose à voir avec le théâtre. Allez. Et donc, j'ai tenté un concours, enfin une entrée. Je suis rentrée à l'IUT d'animation sociale à Grenoble. C'est comme
et
ça.
C'était Grenoble.
Et c'était Grenoble. Et pourquoi Grenoble?
Parce que les montagnes,
voilà.
Et puisque la nature, sans l'océan.
Voilà. La route y menait.
Voilà. La route y menait. Non, j'avais pas vraiment de lien particulier avec qui que ce soit. C'était pas trop loin de Paris, c'était à côté de Lyon, c'était très très loin encore une fois du Pays Basque. À ce moment-là, ça m'allait bien.
Et vous avez pratiqué le métier d'animatrice sociale?
Très peu.
Rattrapée par la force du théâtre?
Parce que, oui, il y a eu le tropisme théâtral qui est revenu et...
Bizarrement, au bout de la deuxième année, lors d'un stage, j'imagine, de clôture, Laurent Poncelet de la compagnie Ophélia est venu me voir, ou peut-être parce que je connaissais quelqu'un dans son entourage, et m'a dit « Est-ce que ça t'intéresserait, pour un stage comme ça de clôture, de participer ?» C'est mon premier FITA, Festival International du Théâtre. Du théâtre Action. Et donc, est-ce que ça t'intéresserait de travailler au niveau de l'administration, de la médiation? Oh ben oui, tiens, pourquoi pas?
Encore un autre métier.
Voilà. Et donc, je l'ai un petit peu secondé, aidé dans ce premier FITA. Et en regardant mon CV, il me dit, mais t'as été comédienne, ça t'intéresserait si j'écris quelque chose de jouer dedans? Oh, pourquoi pas? Et puis, hop, ça y est, c'était parti. Donc, il a écrit une pièce qui s'appelait Post-it. On est parti à Avignon avec. Et puis, je me suis dit, ah, mais c'est quand même bien de jouer.
Comme si elle ne le savait pas.
Voilà. Et puis, quelques mois après, j'ai rencontré Jacqueline Estragon d'Anagramme. Elle était sur le festival Lieu-Di. Tiens, je cherche des lectrices. Est-ce que ça vous intéresserait? Oh bah oui, tiens, lire. Et hop, voilà, c'était reparti. Un an et demi après, j'ai refait mon statut.
Tout ça vous a animé de nouveau.
Voilà.
On pourrait peut-être préciser ce que c'est qu'anagramme.
Anagramme, Jean?
Oui, c'est le fait de mélanger les lettres d'un mot qui existe déjà, de manière à fabriquer un autre mot.
Mais c'est aussi une association
Voilà, qui a été créée par Jacqueline Estragon et Viviane Venot il y a plus de 22 ou 23 ans. Et association donc qui s'occupe principalement d'écriture créative et de lecture à voix haute. Et depuis que j'y suis et que Solène Monnier y est également de théâtre.
Nous en reparlerons. Alors, eh bien, il faudrait vous dire que vous écoutez l'émission Les Démons de Midi.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que ça se passe à midi. C'est sur Radio Campus, Grenoble, 90.8. Et nous accueillons aujourd'hui Marie Despezailles. Ouh. Alors on parle, mais à la radio, vous savez bien, il faut aussi de la musique. Et comme vous l'avez remarqué, Jean et moi sommes un peu flemmards, donc nous demandons généralement à notre invité de se coltiner à nos questions, mais aussi de faire la programmation musicale. Nous vous avons donc demandé de choisir un morceau qui vous est cher et puis de le présenter.
Oui, j'avais peur, Christine, que vous me demandiez tout de go, comme ça, de chanter.
Non, mais on aurait pu.
C'est pour après.
Ça peut être de la musique que vous aimez, que vous pouvez nous chanter.
Voilà, que ça me rassure, ça. Merci, Jean.
Jean est là pour rassurer, moi, non.
Comme dans les interrogatoires, il y a le gentil et le méchant. Puis ça change.
Et ça change
comme
tout
ça,
le temps.
On n'est pas habitué. Donc, oui, une chanson. Une chanson, les gens
vous
qui
avez
doutent.
Une chanson.
Ah, les gens qui doutent. Écrit par Anne Sylvestre. Magnifique chanson. Oui. Chanson avec plein de i. Chanson intelligente, chanson impolie, chanson irrévérencieuse. Enfin, tout ce que j'aime. Elle parle de gens que je connais, qui sont à l'intérieur de moi aussi et qui me touchent évidemment beaucoup.
Parce que vous doutez ?
Ah oui, tiens, peut-être.
On écoute.
On écoute la chanson.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et garder le meilleur.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu.
Merci pour la tendresse. Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Alors, qui interprète cette magnifique chanson?
J'adore cette chanson. Ça commence par Vincent Delerme.
Ah oui, c'est celui qui chante faux, Jean, vous vous souvenez?
Avec cette diction tellement particulière.
Là, on lui pardonne.
Ouais, mais le processus, j'aime bien, mais j'en parlerai après. Alors, Vincent Delerme, Jeanne Chéral, et je pense que c'est Alex Baupin, le troisième. Non, c'est pas Alex?
Non.
C'est le troisième.
Peu importe.
Bon, on cherchera, mais ouais. Bon, ça aurait pu. Il l'aurait très bien chanté.
Et pourquoi non, mais... cette version-là et pas celle d'Anne Sylvestre ?
Oui, parce que j'aime bien l'idée, bon, ça rejoint un peu l'idée du théâtre, que sur un même texte, on puisse effectivement la chanter ou l'interpréter différemment, tout en gardant le sens, l'intelligence, le propos du texte, mais avec toujours une sensibilité différente.
Et une liberté.
Absolument.
Voilà. Ah, c'est bien vous, ça.
C'est possible.
Ouais. Difficile de parler après. Hein.
Oui, c'est beau. Hein. Ça parle.
Mais tout de même, vous allez devoir parler, Jean.
Parler de quoi, vous
faites ? Eh bien, parler de la question qui va tomber du ciel, qui est venue d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Un inconnu,
voilà.
Tout ça, quoi.
Oui, ça y est, j'y suis.
C'était Jean, mais enfin, il faut suivre un peu.
Mais moi,
c'était le moment de la chouette.
Les femmes me troublent, oui, je dois l'avouer. Je ne peux pas le cacher. Oui, alors, nous avons demandé à quelqu'un qui vous connaît bien, une certaine Dominique Locatelli, de vous poser une question amusante, étrange, indiscrète, enfin vous allez voir. Mais qui c'est d'abord cette Dominique, car il s'agit d'une femme.
C'est une femme que j'ai rencontrée il y a plus d'une douzaine d'années maintenant, et qui est une amie, et c'est important les amis. Et elle m'a aidée, rassurée, parce que l'arrivée à Grenoble n'était pas facile. Et je pense qu'elle le sait, mais aussi je l'ai choisie toujours parce qu'il y a un lien avec ma propre mère, une représentation. Mère que j'ai perdue quand j'étais jeune, bon, il y a toujours un manque. Et Dominique, même si je sais que c'est quand même Dominique Locatelli, mais il y a quelque chose quand même toujours de, voilà, une petite énergie qui ressemble à celle de ma mère et qui me touche.
Alors, Marie, en quoi aimerais-tu te réincarner dans ta prochaine vie ?
Waouh ! Merci Dominique. En quelqu'un, déjà.
C'est une
déjà
personne.
Bien en une personne. Peut-être qui doute un peu moins. Et qui a peut-être un peu plus les pieds sur terre. Après, ça reste très ouvert. Voilà.
Vous réincarnez en vous. Ça me paraît pas mal, Marie.
En moi, mais en mieux.
Oh, il n'était pas question de chouette. Vous n'avez pas pensé à vous réincarner en chouette.
Ah bah non, tiens, c'est bizarre. Bon, c'est juste le passage de la réincarnation, la chouette.
On continue les questions.
La question.
La
Allez-y.
Question. La. Ah
non,
oui,
non.
Laquelle au fait ? Ah oui. Pourquoi vous avez fait un stage de théâtre russe ?
Mais les auteurs russes et puis les professeurs russes, c'est magnifique.
Ah bon ? Ah, c'est... Oui. Ils sont mieux que les
Ils sont pas mieux, ils sont différents. J'ai fait aussi un peu...
Les Italiens, les Moldovalaques aussi. Hein.
Voilà, Italiens, je connais moins, mais j'ai fait acteur studio, j'ai fait aussi d'autres choses.
Acteur studio, c'est
voilà, c'est carrément l'autre côté. Mais c'est ça qui est bien, c'est d'essayer de toucher à tout, puis d'essayer d'expérimenter, après, surtout dans la jeunesse. Après, on essaie peut-être de se canaliser un petit peu plus ou voir ce qui nous correspond. Mais c'était Irina.
Irina.
Et alors, travailler Tchekhov avec une russe, c'est carrément incroyable. Pour la petite histoire, on finit toujours à 3h du matin
à la vodka.
Avec des petits coups de vodka. Mais enfin, il faut quand même rentrer dans l'âme russe. Et puis c'est hystérique. Oh. Et puis c'est drôle. Et puis il y a du drame. Et puis voilà, quand on a, je sais pas, 22, 23 ans, on est à fond, quoi. Ouais. Et puis on vit, on est totalement, voilà, passer des nuits blanches. Pourquoi ce mot-là ? Et Tchekhov, tu comprends, Marie ? Alors là, tu vois, et bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, là ? On décolle, quoi. On en voit encore, c'est magnifique, c'est des souvenirs qui restent, quoi.
C'est pas, voilà. Elle n'est pas tout à fait au point sur la chouette, mais sur l'accent russe.
Et ça vous habite encore quelques années plus tard, ce sang russe du théâtre et...
Oui, puis certains profs que j'ai eus, bien sûr. Oui, oui. Puis quand on lit des auteurs russes, que ce soit Gogol, Dostoïevski, Tolstoï, un peu moins, mais quand même, on est happé par cet univers, par cette folie, par cet émotionnel. Voilà, c'est... Waouh, quoi. Quand on aime le théâtre, on aime l'âme russe, même si quelquefois on doit s'en préserver, enfin peu importe, mais il y a une espèce de waouh, voilà quoi.
Et le waouh est resté.
C'est pas le cri de la chouette, mais il est pas mal non plus.
Et le waouh est resté.
Parce que finalement, il reste à vous entendre et à vous voir jouer aussi sur scène, parce qu'on a cette chance avec Jean. Il reste vraiment ce que vous avez tenté au tout début, à la fois de clownesque et de tragique. C'est un doux alliage que vous continuez à tisser, ou c'est le hasard des propositions qui fait que Marie Despezaille peut nous faire rire et pleurer.
Ça, je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais je pense que c'est tout dans tout comédien, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, chacun est différent, mais bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais on a toutes, plein de personnages à l'intérieur et de territoires connus et plus ou moins inconnus. Et si on m'avait dit qu'à 20 ans, je jouerais une vieille dame complètement indigne, sanguinaire et tellement heureuse de tuer des petits enfants, je me dis, mais ça va pas, non ? Alors que oui, et se mettre dans la peau de Nina, dans la mouette, autant. Enfin, voilà, on a tout ça en nous, comme la question de tout à l'heure, pourquoi pas jouer un homme ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? Bon, moi, je suis intimement persuadée que nous avons tous et toutes une énergie masculine et féminine, quelle que soit l'apparence, l'âge. Bien sûr, on est garçon ou fille. Enfin, quelquefois, pour d'autres personnes, c'est plus compliqué. Mais bon, voilà. Mais on a à l'intérieur de soi ces deux parts-là. Et chouette, 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 quand on est comédien ou artiste, mais comédien, on doit le jouer, enfin, l'incarner en tout cas, ou le chercher. Mais on a tout ça en nous. Et waouh, quelle chance! Quelle chance! Parce que dans une vie comme ça, un peu normale, entre guillemets, pas de jugement à l'intérieur de ça, mais quand on ne peut pas exprimer ça, bah, c'est un petit peu. Enfin, c'est des choix. Si c'est des choix, c'est super. Mais voilà, quand on peut être sur scène, être un peu artiste et aller voir là-dedans, mais quel pied!
Alors, pour faire écho à Dominique Locatelli, finalement, vous n'auriez pas besoin de vous réincarner. Vous vous réincarnez.
Oui,
à tout instant sur un plateau.
La réincarnation est peut-être une chose un peu plus folle ou un peu plus sérieuse
que le jeu théâtral.
Voilà, hein. Peut-être. Ça touche peut-être d'autres choses. Quoique, puisque finalement, en étant un petit peu dans l'ésotérisme ou dans le spirituel, un comédien est quand même canal. Alors ça part de lui, de son corps, de ses émotions, mais peut-être ça a transparaît, notamment, bon, on entend beaucoup parler de ça dans le théâtre oriental, hein, le théâtre japonais, le théâtre balinais, les comédiens sont, ou s'exercent en tout cas à être canal et à recevoir vraiment de je ne sais pas où ces fameuses énergies qui font qu'ils vont incarner le mieux possible et s'oublier. Voilà.
Vous vous souvenez d'un rôle avec Nostalgie ?
Moi, je les ai tous aimés, c'était au moment présent. Mm-hmm. Ben non, alors, je n'ai pas vraiment de nostalgie.
Un rôle qui vous a laissé un souvenir horrible, déplaisant, que vous voudriez...
Oui, si. Oh, c'est horrible, je vais vous le dire, c'est affreux.
Ah oui, c'est pour ça qu'on pose la question quand même.
Ah mon Dieu, quel souvenir. En même temps, c'est, comment dire, ça m'a évidemment appris plein de choses. Déjà, à relever la tête, c'était un spectacle d'improvisation. On était deux sur scène, c'était un spectacle de clowns. C'était au Cirque d'Hiver. Le Cirque d'Hiver était plein.
C'est beau cet endroit.
Ouais, c'est magnifique, mais difficile à jouer. Mais bref, c'est pas fait pour ça, cela dit, donc ce qui est normal. C'était une espèce de festival. On était deux, puis on avait eu l'heureuse idée de travailler un spectacle en clown sur la guerre. Génial. Donc, bon, je pense que le spectacle n'était pas terrible, ou il en était en tout cas à ses débuts. Et bref, au bout de 20 minutes, on s'est fait, mais
Oh.
Sortez
Horrible.
Ouais, c'était horrible. C'était horrible. Bon, il devait être, c'était un peu une espèce de 48 heures non-stop. Donc, à notre décharge, il devait être 2 heures du matin. Peut-être de l'alcool était passé par là. Enfin, tout ça, le public était peut-être un petit peu, voilà, un petit peu fatigué, imbibé. Mais bon, cela dit, le spectacle devait pas être bon. Mais quand même, c'était vraiment une expérience. Et on s'est regardé avec ma collègue comédienne. On va jusqu'au bout. Et on a fini, on est revenu saluer.
Bien,
wow. On a eu droit quand même, je pense, de notre courage, peut-être un peu héroïque, à quelques quand même un peu applaudissements un peu éparses, mais applaudissements quand même. Et voilà, on a quitté le cirque d'hiver tête haute, mais ouais, ça m'a quand même beaucoup marqué.
Je comprends.
Vous avez déjà refusé un rôle ?
Non.
Et non. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous intéresse dans un rôle? Sur quoi vous arrêtez lorsque votre téléphone sonne et que l'on vous dit Marie, j'ai pensé à toi pour tel rôle dans telle pièce. Qu'est-ce qui vous motive? Comment est-ce que vous procédez?
Oui, alors, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe dans votre tête?
Ce que j'aime ou ce qui me fait kiffer, je sais pas, ce qui m'embarque, c'est la personne évidemment qui me le demande, l'équipe dans laquelle je vais être, et puis c'est évidemment bon, le type de personnage. Oui, l'histoire, l'auteur, ce que ça va raconter, comment ça va être raconté. Mais ce que j'aime bien, c'est l'aventure. C'est ce petit, comment dire, ces petits métronomes qui commence à s'accélérer et qui dit « Ah oui, tu crois que tu vas pouvoir le faire? Et qu'est-ce que c'est? Et ce personnage-là, tu la verrais comment? Et elle s'habille comment? Et ah oui !» Et puis hop, ça commence. Et hop, la petite histoire commence dans la tête. Et puis après, c'est parti. Elle ne me lâche pas.
Elle dit bien les choses, hein.
Ah, ouais. Elle est comédienne.
Ah, moi j'ai cru qu'à ce moment-là. Bon, enfin, à quel moment vous jubilez le plus au théâtre? Est-ce qu'il y a un moment privilégié?
Oui, il y en a un. C'est bon, peut-être un peu prétentieux, ça arrive pas souvent.
Allez, soyez
pas
prétentieux,
souvent.
Allez. Non, allez, mais c'est... Allez, oh, lâchez-vous,
oh,
Marie,
oui.
C'est possible.
Ah, c'est quand vraiment j'arrive à m'oublier et quand je me sens en tout cas complètement dans le rôle et dans le plaisir du jeu d'être là et avec le partenaire. Et évidemment, du coup, tout se met en place. Voilà, c'est la peinture, je sais pas, c'est la Joconde, c'est je sais pas, tout le rébus, voilà, ça se met en place et tout est parfait. Et on s'oublie et c'est la légèreté et le plaisir. Voilà. Et ça, c'est... Waouh ! Merci, quoi.
Ouais. Et il y a, à l'autre bout, un moment que vous n'aimez pas ou que vous aimez moins ?
Bon, le trou, le trou de texte,
bon sang, c'est bien sûr.
Bon, c'est pas très très agréable. Et puis, oui, mais ça c'est peut-être un peu plus intime. C'est moi quand je commence de moi, quand je commence à me juger, à me dire mais c'est pas bien ce que tu fais.
Et ça peut être possible de se juger pendant qu'on joue.
Oui.
Et là c'est la cata, j'imagine.
Pour moi ça l'est. Oui,
ah,
oui, c'est la cata. Oui, c'est
ah
la
oui,
cata, parce
que, là,
que le jeu décolle pas.
Là, vous ne vous oubliez plus.
Voilà, et c'est l'horreur. Je sens mes tensions dans mon corps, je ne suis pas avec le partenaire, le jeu est au minimum, voire inexistant, et je n'ai aucun plaisir, et voilà.
Et ça s'explique ? On sait pourquoi ça se passe ou pas ?
Après, mon psychanalyste le sait, et au moins...
Ah oui, vous avez
mais
un petit analyste qui vous suit à chaque représentation.
Moi,
oui.
Ça fait maintenant 72 ans.
Et un metteur en scène peut-il être dans ce rôle-là? Pas du psychanalyste, j'entends, mais celui qui vous fait vous oublier et
oui.
Qui vous guide vers...
Oui, tous les comédiens, chacun à sa manière, mais j'ai besoin d'être rassurée. Mmh. Ouais, beaucoup. Mais le metteur en scène est aussi là pour ça. Après, ça dépend du type de metteur en scène.
Il vous bouscule autant qu'il vous rassure, un bon metteur en scène?
Absolument, oui. Il fait aller un peu dans ses retranchements en douceur, si je puis dire.
Ça existe.
Oui, ça existe. Ou en violent jusqu'à un certain moment, et hop, après, pour vous rattraper tout en douceur, oui, bien sûr.
Et Marie, vous vous adressez aussi au jeune public, parce que vous faites des spectacles pour eux, avec eux peut-être. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça a de différent de s'adresser à des enfants?
Ah, c'est une bonne question.
Mais toutes.
Oui.
Toutes elles sont.
Qu'est-ce que ça...
Elle a oublié de le dire. Hein.
Oui, qu'est-ce que ça a de différent? C'est vrai et faux ce que je vais dire. C'est-à-dire que s'adresser à l'enfant, c'est s'adresser, peut-être on oublie un petit peu plus. Bien sûr que l'histoire doit avoir un sens, elle doit avoir des degrés de compréhension, puisque un bon spectacle pour enfants est un bon spectacle pour adultes, pour les accompagnants, comme pour les adultes qui viennent tout seuls. Donc ça, nous sommes d'accord. Merci Joël Pommerat, et d'autres, bien sûr. Mais en même temps, ce qui est vraiment incroyable chez les enfants, c'est cette espèce d'immédiateté de réaction qui fait qu'on s'adresse quand même si le texte est très, très bien écrit, ou si le fil narratif est très, très construit, plus à l'émotionnel, à l'âme, au réactionnel, plutôt qu'à la compréhension. Voilà. Bon, toute proportion gardée. Après, il y a aussi mille et une manières de faire du théâtre pour enfants. Mais peut-être la différence, elle serait là.
Et c'est pour vous un équilibre, alors, que d'être à la fois dans le côté intellectuel de cet oui. art et son côté physique et émotionnel qui...
Les deux sont liés, bien sûr. Ouais.
Hein. Et que les enfants perçoivent peut-être davantage que nous.
Oh, on a tous notre petit enfant en nous, notre enfant intérieur, etc. Mais peut-être certaines personnes, je ne veux pas faire de généralité, on est peut-être quelquefois un peu plus encombrés. Toute proportion gardée, parce que c'est important de réfléchir, c'est important de s'ouvrir à des choses qu'on ne connaît pas, d'aller plus en profondeur. Mais quelquefois, on est un peu embarrassé, oui, de concepts, de jugements. Oui.
Que les enfants au moins.
Non pas, de non par pas. Leur âge, évidemment. Oui.
Vous avez joué beaucoup de textes d'auteurs, et puis, depuis un certain temps, vous jouez des textes sans auteur.
Bon, Fédo était quand même...
Oui, certes.
Georges, on ne t'oublie pas.
Non, mais il me semble que vous avez eu une période où vous dites sans auteur. Enfin.
Oui, de création.
De création ou voilà. D'écriture collective.
Création
peut-être.
Collective.
Oui, des auteurs au pluriel.
Où là, chacun s'y colle, non seulement pour jouer, mais préalablement pour faire du texte.
Voilà, mais c'est aussi un genre de théâtre. C'est essayer de faire différemment. C'est expérimenter aussi d'autres choses. Et pourquoi pas, c'est bien d'essayer de tout connaître. Et après, on privilégie certaines choses. Puis ça dépend des moments aussi.
Voilà. Et d'ailleurs, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est sur le plateau, à la table, à l'ouvrage pour vous?
Alors,
racontez-nous un peu.
Il y a toujours les représentations de la Dame de chez Maxime, donc effectivement de Fédot et du Chapeau de paille. Il y a ça en tant que...
Alors là, on est dans le Vaudeville.
Voilà, Vaudeville, théâtre, scène. Il y a bientôt la reprise, enfin bientôt au mois de mars, mais du spectacle jeunesse L'Ogrelet avec Anthony Gambin à la Bobine. Produit par l'association Anagramme.
L'Ogrelet, c'est un petit ogre.
C'est un petit ogre. C'est
Il est sanguinaire comme votre vieille femme indigne ou pas?
Il ne sait pas encore.
Il est trop petit.
C'est ça
pour
qui
le
est
savoir.
Important. Il y arrive. Ça va être la transition parce qu'effectivement sa maman est humaine et son père est un ogre. Et quand sa mère va lui dire, quand le secret va être découvert, voilà.
Bon.
Venez donc voir le résultat.
Elle s'y prend bien, elle s'y prend bien. Voilà. Il paraît que vous faites aussi des lectures sulfureuses.
Ah oui, mais je fais des lectures sulfureuses, je fais des lectures policières, je fais des lectures les étoiles.
Les sulfureuses m'intriguent.
Je fais des lectures couchées nonchalamment.
C'est
mon côté Sherazade. Oui, des lectures sulfureuses aussi. Ce qui est donc... Par le biais de l'association Anagramme, on essaye de proposer des lectures un peu dans tous les états respectifs. On essaie de jouer avec le côté ludique de la lecture. Alors bien sûr, on peut être debout face à un public, un pupitre, mais on peut être aussi allongé dans un transat. On peut susurrer avec un tuyau dans l'oreille de quelqu'un dans une rue commerçante. On peut être sur la scène de la Belle électrique avec la planète Vénus qui tourne derrière. Enfin, on essaye en tout cas, tout a été fait, mais on essaye en tout cas de jouer avec ce concept de lecture pour essayer de faire plaisir aux gens et peut-être de toucher un public par des biais un peu originaux, qui sortent un peu de l'ordinaire.
Est-ce que
ou
la
un peu
lecture vous permet aussi de quitter les théâtres et d'aller un peu plus dans l'espace public, dans la ville, l'hôpital, la prison? Je crois même que vous allez à Vars, par exemple.
Absolument. Pour lire. On touche vraiment un public très différent et dans des cadres classique et moins classique, absolument. Là, hier, nous avons fini une résidence et nous avons fait une petite restitution, effectivement, à l'hôpital Sud, devant une vingtaine de malades. Voilà, instant magique. Oui.
Et en ce moment, il s'agit aussi de lectures policières pour vous. Vous êtes en train de préparer
Oui, le festival. Absolument. Alors, Anagramme propose... j'ai la plaquette.
Oui, moi aussi, j'ai les dates et tout.
Alors, voilà, comme je ne sais pas lire, c'est pratique pour une comédienne. Du 10 au 19 octobre va avoir lieu le festival de l'Échappée Noire. Festival où il y aura pléthore de lectures, de rencontres avec deux auteurs, Catherine Fradier et Rachid Santaki, scolaire et grand public. Voilà, donc j'espère que cette édition, je pense que ça doit être bien la 12e année, va être réussie.
Peut-être qu'il est temps de rappeler que... Comment elle s'appelle déjà cette émission ?
Les démons de midi,
voilà, c'est ça. C'est sur quelle radio ?
Non, sur Radio Campus.
Hein. Bon, d'accord, ben, heureusement que vous êtes là. Et puis qui accueille aujourd'hui...
Marie Desposay.
Bien, allez, on passe aux friandises.
Ah bon, c'est déjà l'heure
Ah bah oui, c'est
on
l'heure.
On va déjà... Oh. Déjà, le côté sucré de l'émission.
C'est ça, le côté sucré.
Alors, nos friandises, elles sont dans la casquette de Jean. Je ne vous ai pas apporté le petit coffret de bonbons, comme dit Jacques Brel, mais, ni de chocolat, mais une série de questions. Mm-hmm. Il va falloir, de votre petite main agile et si innocente, oui, choisir une question, la lire à haute voix et puis y répondre.
Bien. De la
pour
main,
de vrai.
La main gauche, hein, celle du cœur, bien sûr. Qu'est-ce qui vous met en colère ? L'injustice. La bêtise. L'obstination.
Mais il y a du monde. Hein.
Bon, allez, on va rester sur ces trois-là, oui.
Ça fait déjà pas mal de raisons d'être en colère à peu près tous les jours.
C'est voilà, ça c'est ça. Dès le
matin.
Bon,
on a eu de la chance aujourd'hui,
ah,
alors
Jean.
Donc on va se dire qu'on a, on est passé à côté du pire.
Encore une friandise?
Non, parce que on sait qu'on va pouvoir vous mettre encore un peu en colère.
Oui, voilà.
Avec la prochaine question et rubrique.
Alors Marie, on vous a demandé de choisir une chanson qui vous paraît lamentable, affligeante, dégoûtante.
Qui vous met en colère. Qui,
voilà, c'est ça. Et alors vous avez choisi
Maître Gims.
On l'écoute, vraiment?
Qui c'est ce Gugus?
C'est qui?
C'est... On dit ça, ah, c'est un chanteur, c'est un produit, voilà. C'est un produit qui émet des sons et quelques mots de ci, de là.
On les écoute un peu?
Avec une mélodie...
Et vous avez choisi une chanson
simplissime. Bah, celle qui est passée beaucoup, beaucoup sur les ondes. Allons-y, mais brièvement, s'il vous plaît.
Ouais, très, très vite.
Oui, oui.
Très, très vite.
On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me dit Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Et ouais, ma puce, là, tu me rambo. Ça va faire 6 ans pour
mes. On peut faire des jeux de mots avec Gestapo. Ah ouais, c'est déjà, ça m'impressionne. Bon, eh bien, non.
Oui.
Ah non. Hein.
Non, vous êtes sur Radio Campus et non.
Non,
pas de chansons lamentables.
Il y a des mots en français.
Oui, bah,
si on arrive à les comprendre.
Malheureusement,
oui,
je les comprends. Quelques-uns.
Ah oui.
Mais ça ne me va pas. Moi, bah, après, peut-être qu'on a des auditeurs qui sont fans. Hein. Ils feront une émission spéciale. Mais ça m'étonnerait, j'espère.
Bon, on ne termine pas par le meilleur. Hein.
Oui, mais si. On pourrait terminer par le meilleur ou par du meilleur. On s'était dit que, puisqu'on a invité une comédienne, peut-être que vous auriez un texte, une réplique, des mots à partager pour que l'on se quitte avec une histoire,
oh oui,
avec votre choix.
Oh oui, oh oui. Alors, pour être... Ah, si. Bon, il n'est pas... Oui, mais quand même. Si,
ah celui-là... Il n'est pas, mais il est quand même.
Oui, bon. il est quand même. J'avoue que j'en avais amené plusieurs. Donc,
vous espériez cette question.
Voilà, j'avais prémédité, je l'avais senti, j'avais... Voilà. Mais la voilà. Eh bien, allez, je me lance. C'est Thiago Rodriguez. C'est un extrait de By Heart. Le poète russe aussi. Je vais pas vous faire le cri de la chouette. Le poète russe Ossip Mandelstam fut persécuté, emprisonné, torturé, et il mourut à Vladivostok. Les livres et les poèmes d'Ossip Mandelstam ont tous été confisqués. Alors son épouse, Nadejda, a appris chaque poème à 10 personnes. Elle réunissait des amis et des inconnus dans sa cuisine et apprenait un poème d'Ossip Mandelstam à 10 personnes en même temps, à chaque fois. Cela signifie qu'au bout de 60 poèmes, 600 personnes les connaissaient par cœur. Et quand chaque personne ayant appris un poème dans la cuisine de Nadejda l'apprenait à 10 autres personnes, le nombre augmentait incroyablement. Rien ne pouvait les toucher. Ces poèmes étaient sauvés. Cela me semble la forme de publication la plus profonde qui puisse être, la publication de l'âme humaine. Si 10 personnes connaissent un poème par cœur, le KGB, la CIA ou la Gestapo ne peuvent rien faire. Ce poème survivra.
Alors ça, c'est un sacré mot de la fin. Ça vous laisse quoi?
Ça me laisse quoi? Bon, ben alors on va quand même se dire au revoir, non, poliment?
Oui, on va méditer ces mots, et puis la prochaine fois, vous apprenez un poème, Jean.
Oui, et réciproquement.
Bon, d'accord, on essaie de le transmettre, comme Marie a su si bien nous transmettre cette passion, ce petit feu qui l'anime, entre ogrelet, femme indigne, mais aussi chouette. Ah, oh, ce que c'était chouette ce moment. Merci Marie Despezaille pour cette balade avec vous.
Merci Christine, merci Jean.
Merci Chris d'avoir été tout près avec Radio Campus. Merci à nos éditeurs, à nos auditeurs, et puis au mois prochain, et aux tristes, mais vous savez que oui, l'auteur, c'était un masculin, mais oui, un vilain masculin. Je suis d'accord. Alors, merci à tous et toutes. À très bientôt, au mois prochain, pour une prochaine démence. Les démences de midi, ce sera à midi, un samedi d'octobre, par exemple. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.